Vous écoutez France Culture.
Tout de suite sur France Culture, c'est la fabrique de l'histoire et vous vous intéressez au roman historique Emmanuel Laurentin.
Exactement, et à sa naissance au 19e siècle, on pourrait dire peut-être un peu plus tôt, mais généralement, on date du début du 19e siècle, la naissance et la généralisation du roman historique en Europe. Nous allons en parler avec tous nos invités. Merci donc et prochain journal à 12h30 sur notre antenne. Deuxième temps de notre semaine, donc consacré au rapport entre littérature et histoire, à l'occasion de la parution d'un numéro de la revue d'histoire Les Annales, titré « Savoir de la littérature », et d'un livre également signé d'Aina Ribard et Judith Lioncan, « L'historien et la littérature », paru cette semaine aux éditions de La Découverte. Car depuis au moins 3 ou 4 ans, la littérature et particulièrement le roman ont recommencé à chatouiller le livre d'histoire et les historiens, le succès des bienveillantes, les débats autour du livre de Yannick Enel, Yann Karski ont en effet créé le débat entre romanciers et historiens et interrogé le meilleur moyen de rendre le passé présent à nos contemporains. Hier, la philologue spécialiste de Port-Royal des Champs et auteur de La blessure et la soif, roman de la rentrée dernière, Laurence Plasnet nous a expliqué comment elle écrivait au XXIe siècle sur le XVIIe siècle. Demain, nous traiterons du roman policier historique et aujourd'hui, nous allons donc nous attacher à la naissance du roman historique au XIXe siècle avec Judith Lioncan, qui est co-auteur justement avec Daina Ribard de l'historien et la littérature à La Découverte, avec Anne-Marie Thiès, directrice de recherche au CNRS et grande spécialiste de la naissance des nations au XIXe siècle et donc de la place qui tient le roman, mais également le livre d'histoire, et avec Brigitte Krulik, qui est professeure à Paris-Ouest Nanterre, anciennement Paris 10, et auteur de Fascination du roman historique, intrigue, héros et femme fatale, paru chez Autrement. Bonjour Judith Lioncan, vous êtes en duplex avec nous depuis Cherbourg. C'est un hasard si on retrouve à la fois la parution de votre livre « L'historien et la littérature » avec Daina Ribard dans la petite collection Repères, La Découverte, et puis la sortie d'un numéro à peu près sur le même thème, « Savoir de la littérature » dans la revue des Annales, ou est-ce que cela dénote un intérêt renouvelé, justement comme je le disais en ouverture de cette émission, des historiens pour ce que la littérature apporte à l'histoire, ce que le roman fait également à l'histoire?
Je ne suis effectivement pas sûre que ce soit un hasard. D'abord parce que la rédaction des Annales a un sens aigu de ce qui chatouille les historiens, comme vous le disiez. Nous, Daina Ribard et moi, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps. Donc, d'une certaine manière, la sortie du livre n'est pas liée à cette actualité-là directement. Mais de fait, il y a une convergence chez les historiens d'une sorte de retour à la littérature qui serait un retour renouvelé, plus réflexif, sachant que la littérature est une vieille tentation. Hein. Le roman est une vieille tentation pour les historiens. Et dans les grands classiques de l'histoire sociale des années 1950-1960, on voyait facilement, enfin aisément, des historiens qui pourtant étaient des historiens d'archives, qui produisaient des données solides, quantifiées, etc., aller puiser des petits exemples, des illustrations, des preuves dans les grands romans réalistes du 19e siècle, par exemple. Et c'était très problématique parce que, évidemment, dans la construction romanesque, tout ce qui relève comme ça du décor de la vie quotidienne ou des choses comme ça n'est pas de l'ordre de la caisse d'enregistrement du réel. Et les littéraires avaient beau jeu de leur expliquer à ces historiens que c'était complètement illusoire d'aller chercher dans Flaubert ou dans Balzac des renseignements exacts sur les modes de vie, les niveaux de fortune, etc. Sachant que tout ça, tous ces détails du texte littéraire étaient en réalité ce qu'on appelle des effets de réel, c'est-à-dire des choses qui installent le lecteur dans le monde du texte comme si c'était le monde vrai. Mais ça ne veut pas dire que ces détails ont un niveau de précision sociologique qui est celui qu'attend l'historien.
Et donc, qu'est-ce qui a changé pour que justement ces préventions des années 50 sautent et qu'aujourd'hui on se réinterroge à nouveau frais sur cette question du rapport entre l'historien et la littérature, comme vous le faites dans votre livre ?
Disons que, bon, il y a cette tentation d'aller par exemple lire, je ne sais pas, Balzac, Flaubert ou Zola comme une espèce de grand document sur la société du 19e siècle. Il y a cet interdit là qui porte sur le fait que le roman serait une construction illusoire comme un savoir, en tant que savoir sociologique transitif, direct. Et en même temps, il est évident que ces textes nous parlent du passé. Et ces textes nous parlent du passé, et même d'une certaine manière, ce sont des écrits qui amènent à notre connaissance le plus immédiatement ce passé. Je dirais, il y a le passé, où est-ce qu'on le voit, au fond ? Où est-ce qu'on le voit ? Où est-ce qu'on le saisit ? On le saisit dans le paysage, dans les monuments, et puis on le saisit et on l'apprend très souvent dans les textes. Et pour beaucoup de gens, leur expérience du passé, d'une certaine manière, passe par la littérature, passe par le fait d'avoir lu...
La littérature ou la fiction en général, avec le cinéma historique, par exemple, qui s'est rajouté sur la littérature historique.
Absolument, qui a mis ses pas, d'une certaine manière, alors même qu'il travaille différemment. Dans le roman historique. Donc on a essayé de faire un petit livre qui, d'une part, fasse une sorte de panorama des manières de faire des historiens avec la littérature, qui revienne un peu sur cette tentation et qui revienne aussi sur la question de l'écriture de l'histoire, parce que il y a une autre question derrière cette question de la littérature comme document. Il y a la question de la littérature comme écriture qui dénote et qui justement est capable d'évoquer le passé. Mmh. Et ça, c'est une autre forme de tentation pour l'historien, c'est-à-dire la tentation de l'écriture littéraire et la mince frontière qu'il peut y avoir entre l'écriture historique avec ses contraintes, ses modes de vérification, l'administration de la preuve, etc. Et puis ce qui peut paraître comme une forme de plus grande liberté qui serait du côté de la fiction, de la fictionnalisation, de la mise en intrigue, etc. Ce sont des débats qui ont été très vifs dans les années 70 à la suite du livre de l'américain Hayden White qui s'appelait Metahistory et qui était une sorte d'analyse très, très serrée des modes d'écriture des historiens pour montrer justement la très mince frontière qui pouvait exister entre
fiction,
écriture de l'histoire et
écriture de la fiction.
Alors donc on a fait un panorama et ensuite on a proposé un peu des manières de faire, c'est-à-dire de comment faire pour remettre les textes littéraires dans le passé comme des écrits du passé, et les faire parler du passé dans la discipline historique.
Ah oui, c'est ça qui est intéressant, effectivement. Mais en même temps, on se dit, Anne-Marie Thiès, bonjour, que ce questionnement est un questionnement qui est presque dès l'origine entre historiens et auteurs de littérature. Chez Balzac, qui se voulait supérieur aux historiens en toge, on sent bien qu'il y a déjà cette conviction qu'il y a une capacité supplémentaire à raconter le présent, à l'époque qui devient de l'histoire pour nous, à raconter le présent par la littérature, Anne-Marie Thiès.
Oui, et là, il y a un nom évidemment qui s'impose, et c'est celui de Walter Scott, dont on va, je pense, parler assez longuement ce matin. Bon, dans son livre sur l'origine des nations, qui s'appelle Les communautés imaginées, Benedict Anderson avait fait remarquer qu'il y a une affinité tout à fait particulière entre l'écriture romanesque et la conception nationale moderne. En ce sens qu'on entre dans un nouveau rapport au temps, et notamment au temps narratif, qui est à la base à la fois de la conception de la communauté nationale, une continuité entre le passé et le présent, une collectivité rassemblée en un être unique, et le nouveau mode de narration romanesque qui se met en place au début du 19e siècle. Et c'est vraiment le coup de génie de cet auteur dont tous se sont inspirés, qui est Walter Scott, d'avoir réussi à poser la formule magique qui va permettre à la fois le démarrage du grand roman du 19e siècle et le démarrage de l'écriture historiographique.
Alors, formule magique, c'est un sous-titre, en fait. C'était Waverley ou c'était il y a 60 ans. C'est simplement le fait de dire « c'était il y a 60 ans » qui, d'un seul coup, à travers ce roman Waverley, permet de dire « je suis capable de raconter non pas les temps les plus anciens, etc., non pas de raconter le présent, c'est ce qu'il explique dans sa préface, mais de raconter quelque chose qui m'est relativement proche, mais qui nous est déjà étranger, qui est déjà du passé. À partir de là, je peux le raconter par le roman, Anne-Marie Thiès. »
Oui, et alors, donc Walter Scott va être l'auteur imité, mais de manière incroyable, à travers tout le continent. Et l'un des premiers à lui rendre hommage, mais c'est Augustin Thierry qui...
Un des premiers historiens français,
mais qui a ce qui se donne en quelque sorte la tâche d'inventer l'histoire nationale française, qui n'existe pas encore. Et il dit, c'est en lisant Walter Scott que j'ai compris comment il fallait faire.
Brigitte Krulik, vous êtes auteure, je l'ai dit, donc de Fascination du roman historique, paru chez Autrement, avec pour sous-titre Intrigue, héros et fin fatale. Et vous y travaillez justement sur cette question de ce nœud entre fiction et histoire au 19e siècle en particulier, mais vous venez jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce que vient de dire à la fois Judith Lioncamp et Anne-Marie Thiès sur ce moment de naissance, on sait pourquoi c'est à ce moment-là. On a une idée de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui fait que, d'un seul coup, les ressources à la fois de la fiction et les ressources à la fois de l'histoire permettent de redonner un présent au passé pour les hommes du début du 19e siècle.
Oui, je pense que le roman historique ce n'est pas un hasard s'il naît effectivement à cette époque. On peut le dater, hein, Waverley, c'est 1814. Je crois que c'est une date très importante. Ce n'est pas tout à fait un hasard si le roman historique naît au début du 19e siècle.
À la chute de l'Empire.
Exactement, enfin, à la chute de l'Empire, en tout cas, on va dire comme contre-coup. De la Révolution et de l'Empire, lorsque la question de la formation des communautés imaginées que sont les nations se pose et qu'il y a cette volonté de comprendre le présent, un présent qui est extrêmement qui a été bouleversé, malmené, questionné, et le roman historique va naître donc de cette volonté de remonter aux sources. Alors je pense que on pourrait peut-être remonter un peu plus haut, c'est-à-dire en gros dans le dernier tiers du 18e siècle, lorsque va se poser la question fondamentale de savoir ce qu'est un peuple. Un peuple, il y a évidemment plusieurs réponses possibles, mais il y a cette définition qui va s'esquisser de communauté de destin, une communauté ethnoculturelle, et Waverley s'inscrit d'une certaine manière dans ce questionnement sur la nature du peuple.
Anne-Marie Thiès.
Oui, c'est bien ce que dit Brigitte, à savoir que ce qui se met en place, c'est la nécessité d'écrire l'histoire continuée d'une communauté transsociale. Et ce qu'inaugure Walter Scott, c'est une fiction qui rassemble des individus appartenant à des univers sociaux complètement différents et rassemblés dans une intrigue commune.
Ce qui est quand même étrange, c'est de voir qu'effectivement, cet auteur anglais, plutôt conservateur, va devenir un modèle pour l'ensemble de l'Europe de l'époque. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le modèle Walter Scott va s'exporter à une telle vitesse que tous les pays en train de se former, en train de se créer, avant le printemps des peuples du milieu du 19e siècle, eh bien, tous ces pays-là vont avoir des petits Walter Scott en puissance qui vont faire un peu la même chose que ce qu'a fait Walter Scott.
Oui, Walter Scott, il est idéologiquement assez réactionnaire. Je crois d'ailleurs qu'il avait épousé une Française immigrés, mais en termes de culture, il est d'une extrême modernité, et donc les romans de Walter Scott vont être imités en Russie, en Italie, etc.
1,5 million, je crois, de Walter Scott qui sont vendus en France avant 1830, c'est ce que vous racontez dans votre livre, Brigitte Krulik. Une question de Perrine Cavran.
Oui, et puis il y a aussi cette question de... Il essaie de tisser comme ça deux continuités qui vont beaucoup plaire aussi en Europe en général. La question de la continuité historique, comment est-ce qu'on peut faire un lien entre les régimes passés et le régime présent. Et puis aussi la question de, justement, est-ce qu'il y a un génie commun? Est-ce qu'il y a un génie national? Est-ce qu'il y a une âme du peuple de chaque
Exactement.
Nation?
Tout à fait.
Judith Lioncamp, vous êtes avec nous depuis Cherbourg. Alors là, on a tressé, on a tissé une sorte de décor, pourrait-on dire, pour la naissance de ce roman historique. Mais il ne faut pas oublier, comme le disait tout à l'heure Anne-Marie Thiès, qu'en même temps, il y a la naissance de la discipline historique en tant que discipline et que l'un ne va pas vraiment sans l'autre.
Oui, alors quand même sur le roman scottien et ses continuateurs, qui sont très nombreux en France, hein, je veux dire, on connaît évidemment Notre-Dame de Paris, 1831. Enfin, on va peut-être en reparler. Les Chouans, la chronique du règne de Charles IX, Saint-Marc, de Vigny, etc. Il n'y a pas seulement, je crois, le fait de mettre par écrit le destin d'une communauté. Il y a quelque chose qui est très important dans ces années qui suit l'Empire, qui est le développement d'un intérêt populaire pour les spectacles d'histoire, sous toutes leurs formes. C'est la grande époque des cabinets de cire, des musées de cire, où on voit, par exemple, donc, qui va donner le musée Grévin, où l'on voit des scènes du passé lointain et du passé proche qui sont saisissantes pour les contemporains, pour les hommes de l'époque, c'est quelque chose d'extrêmement frappant, alors que pour nous, c'est un mode de représentation du passé qui a un côté extrêmement désuet. Il y a d'autres types de spectacles qui sont ce qu'on appelle les panoramas, qui sont des panoramas de villes ou de batailles, les fantasmagories, donc qui sont des spectacles extrêmement populaires, peu coûteux, et qui active d'une certaine manière un appétit comme ça pour des spectacles du passé.
Mais pourquoi ? Parce que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce moment-là ? Est-ce que c'est, comme le disaient Brigitte Krulik et Anne-Marie Thiès, l'écho, une sorte de contre-coup de cette vague révolutionnaire, de cette rupture vraiment très, très rude avec l'Ancien Régime ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tient à ça ? Mais en tout cas, qu'est-ce qui fait que tout cela, concomitamment, donne à ces spectateurs des années 1820-1830, en tout cas, un certain goût du passé ?
La question est évidemment de raccrocher l'hier à l'actuel, un actuel qui, par ailleurs, qu'on se plaît à présenter comme incertain, informe, on ne sait pas où va l'avenir, enfin, c'est sur les confessions d'un enfant du siècle de Musset. Donc le présent est incertain, le passé semble s'être enfoncé dans un lointain difficile, et en même temps, toutes les histoires familiales, tout le monde, d'une certaine manière, est habité par le traumatisme ou l'expérience révolutionnaire et impériale. Il faut penser à la présence, par exemple, des soldats de la Grande Armée, des très nombreux soldats de la Grande Armée revenus à la vie civile après 1814.
Oui, présence qui va durer très longtemps tout au long du XIXe siècle, qu'on oublie souvent.
Et qui sont des revenants, d'une certaine manière, qui sont de vrais revenants. Et la question du revenant, du fantôme, il est très présent dans le roman historique d'ailleurs. Les revenants du passé, ils sont là. Bon, et ça active. Évidemment, tout ça participe d'un intérêt pour le passé. Il y a un autre élément matériel et social qui est simplement le fait qu'accède à la lecture des couches de plus en plus larges de la population. Que cette population, on vient de le dire, a un intérêt pour la vision ou la connaissance du passé, et que c'est par le roman, d'une certaine manière, parce que c'est un mode d'écriture qui est facile, facilement diffusé, très diffusé dans les cabinets de lecture, qui va être très précocement illustré aussi, avec des gravures sur bois qui sont en plein développement dans les années 1830. Tout cela va contribuer à faire du roman historique un genre très populaire.
Anne-Marie Thiès et Brigitte Krulik sur le même.
Oui, et pour continuer ce que dit Judith Lioncan, il y a aussi, on entre dans la culture de masse, et donc le roman et le roman historique va fournir la matière à quantité d'adaptations sous d'autres formes. Alors ça va, par exemple, Walter Scott, à peine publié en roman, arrivé à Paris, ça devient des pièces de théâtre, ça devient des adaptations musicales. Le roman historique va passer en opéra, en peinture, en sculpture, etc. Donc on a un univers totalement redondant qui explose dans toutes les formes culturelles en plein développement.
Brigitte Krulik.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On pourrait peut-être résumer en disant que le roman historique, donc tel qu'il est constitué en genre canonique par Waverley, qui est le roman inaugural du genre historique, enfin du genre roman historique, c'est à la fois un roman du peuple, c'est-à-dire qui correspond à cette démocratisation qui se met en place à cette époque et qui va se poursuivre tout au long du 19e siècle à travers l'Europe. C'est aussi un roman des peuples, donc qui va accompagner le processus de formation formation des identités. Et puisqu'on parlait de Waverley, je crois que c'est très important. Enfin, Waverley va mettre en scène ce qui est pour les contemporains donc de l'époque fin de l'Empire, enfin de tout début de la Restauration, ce qui est l'exotique, c'est-à-dire c'est l'altérité, c'est l'autre, c'est l'Écossais sorti d'une imagination qui est extrêmement séduisante parce qu'exotique et déroutante pour les contemporains.
Oui, mais si justement Walter Scott fait Waverley pour commencer, il fera Ivanhoé qui sera un tout autre type de roman, et là ça sera plus il y a 60 ans, ça sera dans le Moyen-Âge donc rêvé de l'Angleterre, et ça va avoir peut-être encore plus de succès peut-être que Waverley, Brigitte Krulik, à ce moment-là.
Alors, je pense que bon, il y a effectivement, Waverley se passe enfin met en scène l'insurrection jacobite de 1745, alors que Ivanhoé se passe quelques années avant 1200, disons, pour simplifier. Donc les contextes sont très différents, mais il y a quand même un point commun, c'est que Waverley met en scène l'antagonisme, le conflit, les relations conflictuelles et en tout cas problématiques entre les Écossais et les Anglais, alors que Ivanhoé va mettre en scène l'antagonisme, le conflit, les relations difficiles entre les Saxons et les Normands. Mais dans les deux cas, ce sont des romans de la réconciliation, de la formation d'une nation.
Oui, Perrine Carvan.
Et il y a d'ailleurs dans cette vogue du roman historique aussi un souci de pédagogie qui est très, très présent chez les auteurs et qui va se traduire aussi avec le phénomène du feuilleton, mais qui fait qu'il y a vraiment une volonté de partager, d'enseigner l'histoire.
Oui, je voulais faire remarquer quand même que l'enseignement de masse de l'histoire, par exemple dans le cas français, n'existe pas avant la fin du 19e siècle. Hein.
Avant, il n'y a pas d'enseignement d'histoire. Ça passe par là.
Donc, il y a un siècle, en gros, de lecture romanesque qui vont préparer l'enseignement de l'histoire. Et Lavis, d'ailleurs, dit bien que l'enseignement de l'histoire, ça doit être un récit. Ça doit se transmettre sous cette forme, qui est une forme plaisante.
Brigitte Krulik et puis Judith Lioncamp.
Oui, on pourrait dire que le romancier historique, et Dumas en est l'exemple le plus célèbre, enfin le plus frappant, c'est l'instituteur du peuple, effectivement.
Et c'est là où c'est effectivement très intéressant, dans ce que vous écrivez avec Daina Ribar, Judith Lioncamp, c'est ce rapport justement complexe entre l'historien et le romancier. Il y a quelque chose qui se noue à ce moment-là, qui s'est dénoué d'une certaine façon dans les années 50 de notre siècle, du siècle dernier, et qui s'est renoué de nouvelles manières depuis.
Bah, disons qu'il y a un dialogue permanent entre les historiens et les productions littéraires. Michelet, par exemple, est un auteur qui peut être enseigné actuellement, je veux dire, aussi bien comme un grand écrivain que comme un des pères de l'historiographie française. Le roman produit une écriture d'histoire.
Et ceci au-delà
du roman historique en tant que tel, parce que tous les grands romanciers du 19e siècle se sont en tout cas réclamés, enfin beaucoup de romanciers du 19e siècle se sont réclamés de Scott, et en premier lieu Balzac. Et de ce point de vue, l'itinéraire même d'écriture de Balzac est très intéressant, puisque un des premiers romans qui l'amène, ce sont Les Chouans, en 1829. Et ensuite, il a toujours dit qu'il avait rabattu d'une certaine manière les techniques, les questions, les manières de faire du roman scottien sur l'histoire des mœurs contemporaines.
C'est-à-dire qu'on prend
les
éléments.
Pause, hein.
Oui, on prend les éléments, donc les éléments de fabrication du roman historique vu par Walter Scott, et puis on tente d'en faire une étude des mœurs d'aujourd'hui.
Voilà. C'est-à-dire l'idée que on regarde le monde, enfin la question de la couleur locale au fond, qui est évidemment au centre de ce que les romantiques voient chez Scott, c'est-à-dire une manière de décrire le monde social comme à la fois proche et étranger. Et puis l'intérêt pour des personnages qui sont des personnages de la classe moyenne, on va dire, hein, qui ne sont pas des héros, qui sont des personnages de la vie quotidienne, du tout venant de tous les jours. Tout ça sont des choses que Balzac remet dans l'histoire contemporaine. Mmh. Et donc le roman réaliste tel que le construit Balzac est en tout cas produit comme quelque chose qui serait le Scott d'aujourd'hui. Ouais. Hein. Ça, il le dit très fortement dans toutes les préfaces qui accompagnent les romans, ces romans à la veille de la construction de la comédie humaine. Ensuite, ça s'éloigne un petit peu plus, peut-être à mesure que le projet balzacien
change
prend une sorte de consistance. Disons, il prend une cohérence qui se situe ailleurs. Mais il produit une écriture d'histoire, non pas seulement... parce qu'il applique Scott au monde contemporain, mais parce que tous les romans de Balzac sont habités par la question de la manière dont des individus aujourd'hui, c'est-à-dire l'aujourd'hui de 1830 ou 1840, sont travaillés par le passé.
Ouais.
Et là, c'est là l'intérêt peut-être de l'écriture balzacienne, c'est-à-dire de montrer comment le contemporain est habité, traversé, informé par des questions qui sont les questions de la continuité historique. Et en particulier, il y a ces personnages, par exemple, très frappants chez Balzac, qui sont des personnages qui sont des reliques du passé ou des revenants. Mmh. Le colonel Chabert,
bien
évidemment.
Sûr.
Et puis, par exemple, si on pense au cabinet des Antiques à Alençon, on a ces personnages de l'aristocratie d'Alençon qui sont figés dans leur salon 18e et qui sont là comme des reliques du passé et par rapport auxquels des personnages plus jeunes se mettent en mouvement. Et cette question, ces questions de génération, de à quel temps au fond on appartient quand on vit en 1830, ce sont des questions historiques.
Ouais, ce sont des questions que se posent également les historiens de la même époque.
Brigitte
Krulik et Anne-Marie Thiès.
Non, moi, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit tout au début de notre conversation à propos des relations entre l'historien et le romancier. Bon, c'est un problème très, très vaste. Il y a des relations, on pourrait dire, de fascination réciproque. Et on pourrait peut-être... Enfin, je voudrais simplement préciser qu'effectivement, Augustin Thierry disait qu'il avait senti s'éveiller sa vocation d'historien en lisant Walter Scott, mais aussi Chateaubriand. Alors que il y a un parallélisme que je trouve assez intéressant avec le grand historien allemand qui est à peu près contemporain, qui est Ranke. Et Ranke, lui, tire exactement les conclusions inverses de la lecture. Il lit Ivanhoé, comme évidemment beaucoup de ses contemporains. Et lui, au contraire, dit qu'en s'apercevant de toutes les inexactitudes, les approximations de Scott, il a senti s'éveiller sa vocation d'historien. Historien justement pour rectifier par l'érudition ce qu'a écrit le romancier.
Périne Kervan.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que souvent le romancier, dans le cas de Walter Scott, c'est le cas qui s'intéresse donc à cette question du roman historique, et aussi quelqu'un qui s'intéresse au folklore, qui récolte des contes, et donc il y a aussi toute cette idée de qu'est-ce que l'identité, de quoi on est constitué, de quoi l'âme d'un peuple est constituée. Donc c'est souvent des gens qui s'intéressent aussi beaucoup au folklore et à la culture. On pourrait dire ancestral entre guillemets de...
Même si c'est une réinvention de tradition.
Même si c'est une réinvention de tradition. Alors justement à ce propos, on peut faire remarquer que Walter Scott, écrit sur l'Écosse et que un bon demi-siècle avant, il y avait eu en Écosse justement la naissance de ce grand renouveau culturel qui avait été le sianisme, et c'est-à-dire ce grand mouvement qui avait démarré la collecte dans le peuple de chants populaires supposés être justement des reliques, des témoignages de très, très, très anciennes épopées. Et effectivement, il y avait eu à ce moment-là un premier démarrage de tentative pour rendre compte du passé des nations en formation, des nations modernes, mais alors sur un mode d'écriture ancien qui était le mode de l'épopée. Mode prestigieux, mais...
C'était
Ossian. Alors, le mode d'Ossian, mais Ossian, c'était supposé fournir des Iliades et des Odyssées modernes. Et effectivement, dans toute l'Europe. Et là encore, on voit bien qu'à partir d'une invention locale, on a une expansion européenne extrêmement rapide.
Ce qui est assez extraordinaire, parce que effectivement,
des recherches. Il y a des recherches qui traversent toute l'Europe.
Ce qui est extraordinaire, tout de même, Anne-Marie Thiès, parce qu'on pourrait se dire, voilà, des pays qui sont encore morcelés, avec, disons, une circulation des informations qui va beaucoup moins vite que dans nos sociétés modernes.
Alors, et pourtant, tous ceux qui sont intéressés à cette période sont ahuris par la vitesse des transmissions culturelles.
Et la vitesse
de transmission et de traduction. Alors, la France étant une plaque tournante. Hein, beaucoup de choses arrivent en anglais, sont traduites en français, et c'est à partir du français qu'on retraduit en russe, en allemand, etc. Oui. Et ça va très, très, très vite. Hein.
Il y a une conscience d'un moment charnière, d'un moment où il faut vraiment redessiner, réécrire, redéfinir.
Oui, il y a véritablement un mouvement d'ensemble et une recherche de nouvelles formules.
Oui, sur ce point, Brigitte Collet.
Et on peut dire, j'insiste, que l'Écosse, assez curieusement, a été tout au long du 19e siècle cette espèce de laboratoire expérimental des nouvelles formules, à bien des égards.
Et pourquoi ?
Alors. C'est vraiment une question qui se pose, et je pense que c'est parce qu'avec l'Écosse, on a la contiguïté entre une espèce de sauvagerie, de barbarie préservée et la révolution industrielle, qui sont extrêmement proches et donc qui génèrent cette espèce de contradiction à laquelle il faut trouver une réponse.
Oui. Brigitte Collet et Judith Lioncan.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Anne-Marie. Je pense qu'il y a aussi la proximité en forme de, comment dirais-je, de défi, enfin au sens qui appelle des réponses, qui appelle des réactions avec une Angleterre qui est, comment dirais-je, un royaume où déjà s'est mis en place une forme de parlementarisme qui est aussi un laboratoire de la modernité.
Et qui en même temps un laboratoire de colonialisme.
Voilà, c'est ça.
Et donc la confrontation avec d'autres
est un système très intéressant.
Ce que vous dites là, c'est malheureusement un peu tard pour tous les étudiants qui préparaient la capacité à l'agrégation, qui je crois sont tombés sur la Britishness. C'était un des sujets qui était présenté et qui correspondait justement à ce que vous racontez, à savoir la naissance de ce moment de la Britishness.
Une excellente lecture, de ce point de vue-là, oui.
Judith Lioncan.
Oui, alors ce qui est frappant, je crois aussi dans ces romans et dans ces formes d'historiographie, c'est donc le sens du local. Un sens du local peut-être renouvelé, c'est-à-dire un rapport aux appartenances locales et leur inscription dans l'appartenance nationale. C'est vrai que beaucoup des romans historiques français également, hein, de tous les imitateurs de Scott, sont produits par des auteurs qui ont un attachement provincial, local très fort, et qui vont s'appuyer sur la floraison d'un savoir à la fois géographique, archéologique, historiographique, local, dans des sociétés savantes qui pullulent en fait à partir de la Restauration, notamment parce que, pour des raisons politiques, et ça c'est un historien américain, Stéphane Gerson, qui l'a très bien montré, pour des raisons politiques, les gouvernements successifs à partir de la Restauration essayent d'attacher les élites à leur localité, encourage énormément le travail des sociétés savantes dans les villes moyennes.
C'est le même moment où naissent la plupart des grandes sociétés savantes, des sociétés d'antiquaires qui se développent
Et alors donc il y a tout ce mouvement comme ça de curiosité pour le local, qui peut avoir donc des aspects géographiques, archéologiques, folkloriques, etc., qui vont évidemment servir aux romanciers qui vont faire une moisson documentaire dans ces connaissances locales, de matériaux, et en même temps qui vont trouver des lecteurs chez ces bourgeois savants de province qui se passionnent, qui pour la Normandie, qui pour la Bourgogne, qui pour la Provence, etc. Donc il y a ce sens du local qui est fortement travaillé par les sociétés savantes et qu'on voit apparaître dans tous les romans de mœurs du 19e siècle, dans les romans réalistes, que ce soit des romans historiques ou que ce soit des romans de l'histoire la plus contemporaine. En particulier, puisque je suis à Cherbourg, je pense à Barbet d'Aurevilly et au Cotentin. Barbet d'Aurevilly a puisé dans le folklore et sa connaissance très, très vivace des histoires et des contes locaux, de quoi raconter une histoire contemporaine, c'est-à-dire l'histoire de son temps, l'histoire du 19e siècle, depuis le point de vue normand, du Cotentin, hyper localisé et en même temps traversé par la grande histoire.
Oui, et Georges Sand d'un autre côté pour d'autres régions du centre de la France. Anne-Marie Thiès.
Oui, pour poursuivre ce que dit Judith Lioncan, il est certain aussi que le roman historique a joué un rôle décisif dans l'invention des monuments historiques.
C'est-à-dire ?
Puisque c'est le moment où, au 19e siècle, on commence à porter de l'intérêt pour des vieux bâtiments et à décider qu'au lieu de les démolir ou de les laisser s'écrouler, il faut les protéger parce que ça fait partie du patrimoine historique de la nation.
La mission de Mérimée en particulier,
mais
pas seulement.
Mais il s'agit Et là, on voit bien avec Mérimée, et se confrontant aux élites locales qui n'ont qu'une idée, c'est de moderniser et débarrasser moi de toutes ces vieilleries.
Il faut lire là-dessus la thèse de Arlette Auduc qui s'appelle « Quand les monuments, inventaient la nation », qui est une très bonne thèse sur ce moment-là. Justement.
Oui, justement. Mais il faut arriver à convaincre les populations que ces vieilleries, elles ont un intérêt. Et le roman historique va être notamment ce grand moyen de vulgarisation d'un savoir sur ces monuments qui va, et c'est vraiment un rôle pédagogique qui est joué par le roman historique, et qui assumait, Victor Hugo l'assume totalement dans Notre-Dame de Paris, apprendre ne serait-ce qu'un vocabulaire architectural pour décrire ces monuments, apprendre pourquoi ils sont beaux,
un glossaire.
Apprendre qu'ils ont été le théâtre et le lieu et l'âme d'événements historiques importants. C'est toute une conversion du regard qui est apportée par le monument historique et qui se traduit par la leçon finale. Eh bien, ces monuments, il faut que vous les protégiez. Et donc, il y a effectivement un rôle de médiateur entre le travail fait par les sociétés locales et puis la mobilisation autour de ces monuments.
Perrine Carvent.
Oui, on pourrait dire, Brigitte Crulli, comme vous l'expliquez dans votre travail, que l'histoire, à ce moment-là, devient vraiment un moteur du progrès.
Oui, alors on pourrait le dire ainsi, c'est-à-dire que l'histoire, en gros, pour simplifier, on pourrait dire qu'au XIXe siècle s'esquisse une vision de l'histoire qu'on pourrait appeler téléologique, avec l'idée du progrès, mais progrès qu'on peut définir de manière très, 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 très différente selon les aires linguistiques et culturelles. Le progrès prend, par exemple, la forme de, d'une part, la diffusion d'un savoir, savoir normalisé, mais aussi prend la forme de la constitution d'une nation comme une communauté de destin. On retrouvera ça dans les romans historiques, que par exemple chez Gogol ou Dumas aussi, c'est la constitution de la nation France, de l'État fort. C'est une des visions du progrès. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit les monuments, la notion de patrimoine qui s'esquisse à cette époque. Le style troubadour, ou le genre troubadour plutôt, est en fait, d'une part, né à peu près en même temps que le roman historique, peut-être même avant, puisque la vogue du style troubadour dans les arts décoratifs, notamment dans le mobilier, apparaît tout au début du XIXe siècle, à l'époque de l'Empire, notamment Hortense de Beauharnais avait un goût tout à fait prononcé pour les meubles du style troubadour, c'est-à-dire un Moyen-Âge réinventé.
Ce sur quoi a travaillé en particulier Christian Amalvi avec son livre Le goût du Moyen-Âge. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce point, Judith Lioncamp?
Oui, sur les monuments et sur le rapport à la narration historique quand même. Évidemment, cette protection, cette préservation du passé, elle prend des formes et elle s'exprime dans les modes de restauration des bâtiments anciens qui sont très différentes de ce que nous appelons la préservation du patrimoine et le mode de production du caractère passé d'un bâtiment. Quand on pense à ce que fait Viollet-le-Duc au XIXe siècle, c'est beaucoup plus une réinvention du passé avec des matériaux modernes qu'une restauration au sens d'aller retrouver, gratter sous la poussière des vieilles pierres la trace de ce qui aurait été au passé et de le faire revivre. Quand on voit ce qui se passe, notamment au moment de la restauration, des projets de restauration de Notre-Dame de Paris ou d'autres églises, il y a une idée à la fois de produire un passé avec des matériaux du présent, en utilisant des matériaux du présent, et de conserver à l'intérieur du bâtiment toutes les strates de son histoire, comme si le bâtiment devait raconter son histoire. Et donner à lire son histoire depuis sa fondation jusqu'à une sorte de passé arrêté qui serait celui de la fin de l'Ancien Régime. Et ça, c'est évidemment un rapport entre le monument et la narration historique qui est très différent de celui que nous pouvons avoir, nous, dans la préservation des bâtiments anciens.
Oui, mais qui en même temps correspond bien à cette époque de progrès technique et technologique qui permet d'une certaine façon de faire renaître le passé avec les moyens qu'a Viollet-le-Duc et qu'ont ceux qui travaillent avec lui. Anne-Marie Thiès ?
Oui, on a même des cas de bâtiments, de châteaux médiévaux qui ont été construits au XIXe siècle pour être à l'image du roman. En fait, dans le sud de l'Allemagne, il y a un jeune Hohenzollern qui, enthousiasmé par un roman de chevalerie racontant l'histoire de sa famille au XIe siècle, a fait bâtir le château du roman. Du roman. Le château n'avait pas existé. Il restait quelques vieilles pierres d'un château. Mais c'est surtout, on peut rire de ça, mais nos villes, nos capitales européennes sont pleines aujourd'hui de monuments néo-gothiques qui ont servi pour des hôtels de ville, des gares, des prisons, etc. Parce que les lecteurs ont appris à aimer le néo-gothique dans des romans historiques.
Sans compter la réinvention des styles régionaux supposés à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui nous valent des villas basques un peu partout dans le Pays Basque, là où elles n'étaient peut-être pas si nombreuses que cela à l'origine, parce qu'on a réinventé le style basque.
Et Scott a joué un très très grand rôle dans le goût du néo-gothique en matière d'architecture et de mobilier, puisque Scott s'était bâti un château en pur néo-gothique.
Alors, puisque vous aviez évoqué tout à l'heure, Anne-Marie Thiès, le rôle important de la révolution industrielle et le bouleversement qui était lié à cette société qui basculait dans autre chose au milieu du 19e siècle, à partir de la Grande-Bretagne jusque dans tout le reste de l'Europe. Périne Carvent, vous avez demandé à plusieurs historiens pour cette série, donc historiennes, d'évoquer à votre micro le livre qui les avait profondément marqués et qui non seulement avait décidé parfois de leur vocation d'historien, le roman, mais qui avait peut-être servi également à une réflexion historique sur leur propre travail.
Oui, voilà. Alors la consigne, ce n'était pas forcément un roman historique. Donc c'était un roman en général. Et ce qui est étonnant, c'est que pour le 19e siècle, ce qui est beaucoup revenu, c'est le roman réaliste qui est finalement naturaliste, un avatar du roman historique. Et donc là, Régine Robin a choisi donc de parler.
Donc Régine Robin, qu'il faut représenter peut-être à nos auditeurs, donc grande historienne de la mémoire, qui a travaillé également en psychanalyse, qui s'est intéressée à toutes les questions liées aux résurgences mémorielles en Allemagne en particulier. Et là, vous lui avez demandé et elle vous a répondu.
Germinal.
Alors Germinal, bon, roman de la représentation du 19e siècle, dit réaliste, roman que j'ai lu à peu près vers 17 ans, au moment où je découvrais aussi la comédie humaine et l'éducation sentimentale de Flaubert. C'est le moment où on s'immerge dans les grands classiques. Je ne dirais pas qu'il a déterminé ma vocation d'historienne ou d'écrivaine, mais il a joué un rôle déterminant, à la fois dans mes engagements et mes réflexions sur les pouvoirs du roman dans l'écriture même de l'histoire et la façon dont un historien peut être confronté à cette production textuelle. Roman donc de 1885, paru en feuilleton d'abord dans la presse en 1884. Roman contemporain lui-même d'une grande grève des mineurs, celle d'Anzin de 1884, et lui racontant une grève du bassin du Nord, grève imaginaire mais qui condense énormément de grèves et de documentation accumulées, amassées par Zola, qui se situe en 1867-68, et qui tourne mal, histoire de grève donc, et de mineurs, où les mineurs perdent tout et se font massacrer par la troupe. Et pourtant, on ne sort pas désespéré de ce roman. Alors, pour l'historien, qui trouve-t-on ? L'événement, la grève, les mineurs, le groupe, le paysage, le nord, les corons, la description de leur vie, de leur misère effroyable. En même temps, l'espérance d'un monde meilleur, quand Étienne Lantier vient, comme on dirait, les organiser, essayer de les faire adhérer à l'international et fonder surtout une caisse d'assurance qui inquiète énormément le patronat. Description évidemment de mœurs, là on rentre déjà dans l'imaginaire un peu de l'écrivain, mais on sait que ça touche à quelque chose des mœurs du temps, mœurs dissolues, dues à leur désespérance, à leur promiscuité dans les familles. Au manque par moment aussi de solidarité. Ça n'est pas un roman à l'eau de rose où il y aurait d'un côté les très bons et de l'autre côté les très méchants. C'est le système qui est dénoncé. Roman aussi du mouvement ouvrier qui avait été totalement brisé, comme on le sait, par la Commune et qui commence à se réorganiser. et surtout la lutte des classes, qui est devenue tabou aujourd'hui, mais qui au contraire était très importante, et Zola l'inscrit magnifiquement dans le roman. Le capital, le travail, et comme dit un personnage, il faut que ça pète. Il faut bien sûr faire porter attention sur le fait que ça s'appelle germinal, le printemps qui revient, les choses qui sont dans la germination, et puis aussi l'allusion à une journée révolutionnaire du 12 germinal en 3, 1er avril 1795, où le peuple de Paris envahit la Convention en criant « du pain, du pain », et cette scène est répercutée, évidemment, à un siècle de distance, dans le roman. Mais ce qui est important, je crois, alors pour l'historien, en le relisant récemment, parce que c'est une vieille connaissance, c'est la place du mythe, le passage au mythe. L'historien va devoir composer avec cela. Car s'il y a une écriture de l'histoire avec ses codes, sa déontologie, et puis celle du roman, il n'y a tout de même pas deux séries parallèles, mais dans la culture, un grand intertexte où les textes s'alimentent les uns les autres. La mine, le combat des mineurs comme mythe, non pas au sens où cela viendrait en contradiction avec le réel, le mythe serait le mensonge et l'historien aurait la vérité. Pas dans ce sens-là, mais au sens où l'événement est magnifié, transformé en symbole, en tradition, en socle fondateur. Et désormais, le mythe lui-même, germinal, va faire partie de l'histoire des grandes grèves, même celle du XXe siècle. On se réclamera de germinal. Donc ce n'est pas seulement un socle discursif, mais imaginal, représentationnel. Donc, l'historien, lorsqu'il travaille sur la grève, à la fois il doit se décontaminer de l'importance du roman, mais il ne peut pas non plus l'ignorer. Il doit le réinscrire dans son examen. Et là, on est au cœur de ce qui fait le rapport histoire et fiction, de la grande histoire et des rapports intimes et sociaux. À moins d'aller sur les traces, comme l'a fait Corbin, d'un inconnu Pinago, l'historien ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête des gens. Le romancier peut le faire là, un cran plus loin.
Régine Robin évoquant donc le roman qui a marqué sa jeunesse et qui continue à l'interroger en tant qu'historienne dans une réalisation de Véronique Samouilov. Alors on a là Anne-Marie Thiès, toute la question qui s'est posée dès le 19e et qui continue à se poser à l'historien. Il faut à la fois se décontaminer du roman, dit Régine Robin, et ne pas l'ignorer, et c'est ce qui est le plus difficile.
Bien, je ne saurais trop recommander la lecture d'un ouvrage de Régine Robin qui s'appelle « Le cheval blanc de Lénine » et qui est un livre magnifique de réflexion sur l'historiographie, les mythes et notre rapport à l'histoire. Oui, c'est vrai que finalement, les acteurs sociaux, ce qu'ils ont en tête lorsqu'ils pensent au passé, ce sont des romans historiques.
Ouais.
Ou des adaptations sous forme de films.
Et comment faire, le départ en chacun d'entre nous sur ce qui nous permet de délibérer sur le passé d'une certaine façon? Est-ce que c'est Ivanhoé qui nous permet de délibérer sur le Moyen-Âge ou les ouvrages de Jacques Le Goff? Et on ne sait pas toujours si on délibère de façon raisonnable, entre guillemets.
Alors, vous me permettrez de dire que je pense que beaucoup d'entre nous ont accédé à Jacques Le Goff par Ivanhoé. Et d'ailleurs, Jacques Le Goff lui-même, dans son Égo-histoire, dit que sa passion de l'histoire vient de la lecture des romans historiques. Donc, c'est effectivement cette étoffe de laquelle nous sommes faites et sur laquelle nous introduisons une réflexion plus discriminante.
Ouais. Judith Dioncan.
Ça me fait penser à une anecdote qui met en scène, enfin qui concerne Alexandre Dumas. En 1848, donc Dumas était candidat à la députation, donc voulait devenir représentant à l'Assemblée nationale, et donc c'est beaucoup impliqué dans la vie politique. Et en avril 48, il y a eu des mouvements de foule à Paris, et la foule a envahi l'Assemblée nationale. Dumas, dans une espèce de moment comme ça d'orgueil d'écrivain, pensant à ses évocations des foules révolutionnaires dans sa série série révolutionnaire qui va du Collier de la Reine au Chevalier de Maison Rouge en passant par Ange Pitou, aurait dit et a écrit « Ils me refont les plagiaires ». C'est-à-dire que la foule révolutionnaire, vue par Alexandre Dumas en 1848, c'est une foule de lecteurs
qui est
des
tellement
romans
des
de la Révolution française. Et lui, furieux de ne pas être reconnu comme un guide du peuple, d'une certaine manière, par les révolutionnaires qui ne voulaient pas porter au pouvoir Alexandre Dumas, lui, furieux, les accuse comme ça de le plagier, c'est-à-dire que l'histoire plagie le roman, l'histoire en acte en train de se faire, plagierait le roman historique. Mais plus sérieusement, après la difficulté fondamentale dans le travail historique cette fois-ci, c'est comment repérer chez les individus sur lesquels nous travaillons, les individus du passé, cette présence de la littérature, du roman historique, dans leurs actes, dans leurs gestes.
Sinon par un travail presque anthropologique ou sociologique, effectivement.
Non, mais ça passe notamment par toutes les formes existantes d'histoire du livre. Quand on voit, par exemple, la politique de publication du journal L'Humanité, qui, pendant toutes les premières années du XXe siècle, a republié en permanence, Anne-Marie Thiès le montre dans le roman du quotidien, donc je ne vais pas parler à sa place, mais a republié Zola tout le temps, dans une espèce comme ça, je pense, d'activisme, de volonté d'éducation politique par le roman. Ça, ce sont des choses qu'on peut repérer. Alors après, savoir ce que les gens font avec. C'est vrai que dans la symbolique de l'action collective, la manière même d'occuper l'espace urbain dans les moments révolutionnaires,
il y a des
choses
des
qui peuvent
qui
être
reviennent.
Reliées ouais, à la littérature.
C'est ce que vous appelez la fascination du roman historique, Brigitte Krulik.
Oui, enfin, on peut l'appeler ainsi. Enfin, moi, je pense qu'il y a un mot de Michelet qui décrivait son travail, sa mission d'ailleurs. Il concevait ce travail comme une mission d'historien. Et c'est le mot de résurrection. Et qui montre qu'effectivement, il y a à la fois donc, la magie, l'érudition, et que le romancier historique essaie de puiser donc à la fois dans la magie et dans l'érudition pour opérer ce travail de résurrection du passé.
Périne Caron.
Mais est-ce que finalement ce malentendu qui perdure encore aujourd'hui ne découle pas aussi du fait que le roman réaliste, le roman naturaliste qui se voulait vraiment proche de la vérité s'est appuyé sur les méthodes du roman historique ?
Régis Krulik.
Je ne pense pas qu'il y ait malentendu. Je pense que bon, il y a un débat, dont les termes ont été posés dès le début du 19e siècle, dès la naissance du roman historique, et on s'aperçoit que les termes du débat n'ont pas véritablement été changés. Je ne pense pas qu'il y ait. Non, je pense que c'est une tension. Je dirais, c'est une tension entre les deux.
Anne-Marie Thiès.
Oui, pour parler de fascination du roman historique, bon, il est certain que beaucoup de révolutionnaires au 19e et au 20e siècle n'ont cessé de rejouer les romans historiques révolutionnaires. Mais pour terminer sur une note beaucoup plus légère, je rappellerai qu'en en Russie, après la chute de l'Union soviétique, il y a eu une libération extrême des publications et qu'il y a eu un énorme engouement pour les romans historiques passés ou du 20e siècle, et que notamment la série des Angéliques a suscité un enthousiasme incroyable. Au point que des trains transportant des ouvrages sortant de l'imprimerie ont été attaqués.
Angélique, marquise des Anges, donc
il y a eu du piratage.
Incarné au cinéma par Michel Mercier et par Robert Rossen, qui jouait Geoffroy de Perrac, je crois, si je me souviens bien. Évidemment, c'était les années 60, les années de ma jeunesse, quand tout cela passait à la télévision dans ces années-là. Merci à toutes les trois d'avoir accepté de venir parler du roman historique et de sa naissance au 19e siècle. Merci à Virginie Cassagne qui était notre technicienne à Paris, mais également à Morgane Sanson qui était avec vous, Judith Nioncan, à Cherbourg. Je rappelle que vous êtes auteur, co-auteur avec Daina Ribard de L'historien et la littérature dans la collection Repères, la découverte, que Brigitte Krulik, vous êtes auteur de Fascination du roman historique, Intrigue, Héros et Fin fatale chez Autrement, qui fait justement le point, mais qui vient jusqu'à aujourd'hui et pas simplement sur le 19e siècle. Et puis qu'on peut lire entre autres de vous, Anne-Marie Thiès, La création d'identité nationale chez Point Histoire. Et puis le roman du quotidien, c'était chez
Réédité en Point Histoire.
Réédité en Point Histoire. Et puis pour ceux qui voudraient relire Walter Scott, il est publié bien évidemment dans la bibliothèque de la Pléiade avec Waverley.